louange à Dieu, nous le louons. Nous lui demandons de nous aider. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos mauvaises actions. Celui qui départ la personne ne peut l'égarer. Et celui qui est égaré, personne ne peut le remettre sur le bon chemin. Je confirme qu'il n'y a aucune divinité qui est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad son messager. Ou vous qui croyez que vous craignez Allah comme il faut et tâchez de ne mourir qu'en tant que musulman. Ô vous les gens, que vous craignez votre Dieu qui vous avez créé d'une seule âme et il a fait beaucoup d'hommes et de femmes, que vous craignez Allah devant lequel vous serez responsable dans les jours, car Allah vous observe. Ô vous que croyez, que vous disiez les bonnes paroles et que vous soyez sur le chemin de rectitude de celui qui obéit à Allah, à son messager, elle récoltera le succès. La meilleure parole, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure guidance, c'est celle du prophète alayhi salatu wa salam. Et le pire parmi la pire chose, c'est l'invention, car chaque invention est un égarement, chaque égarement est dans l'enfer. Un sujet parmi les sujets où tous les musulmans sont d'accord là-dessus, n'a pas de divergence, c'est la guidance sur le chemin de l'islam. Ce chemin-là de l'islam, c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas vraiment lui donner quelque chose de pareil. Celui qui a l'islam, il aura la bénédiction d'Allah dans cette vie, dans ce meilleur monde et dans la vie dans l'au-delà. Ça, c'est une méthode. C'est un chemin emprunté dans cette vie, dans ce meilleur monde pour avoir le succès dans la vie dans l'au-delà. Et ça, c'est l'accord sur lequel, et l'accord auquel celui qui s'accroche, il aura le succès le dernier jour. Et c'est pour cela que nous avons le paradis qui est autant que les cieux et la terre. Nous devons, pour cette raison, garder cette bénédiction. Nous devons essayer de la garder telle qu'elle est. Il ne faut pas faire quoi que ce soit qui peut faire mal à ce chemin de rectitude, le droit chemin. Et nous avons notre prophète dans l'image, nous devons calquer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah est le tout pardonneur, il vous avait envoyé un homme de parmi vous pour communiquer le message. Allah subhanahu wa ta'ala avait guidé les croyants sur le bon chemin, le droit chemin, comme Abu Dharr al-Ghafari, il a dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous avait laissé tendu que rien n'a été, que toute chose a été traitée, même les oiseaux dans le ciel. Il y a des règles concernant ces oiseaux. Et c'est pour cela Allah subhanahu, le prophète alayhi salatu wa salam dit, le meilleur comportement d'un musulman, de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Même peut-être ce hadith-là, il est le sujet de quelques discussions, mais parmi les gens qui avaient vérifié les hadiths, ils ont dit qu'il arrive aux hadiths alors qu'ils sont appelés les meilleurs hadiths ou les hadiths fiables. Il ne faut pas s'immiscer dans les affaires des autres. Comme nous savons que le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'elle dit quelque chose, elle dit en quelques paroles ce que signifie beaucoup. Nous les musulmans, nous avons besoin de ce hadith-là, pas seulement répéter les mots de ce hadith-là, mais nous devons appliquer ce hadith-là pour le comprendre dans la vie de tous les jours. Combien de fois nous avons fait le contraire de ce hadith-là? Que vous sachiez, mes frères et mes sœurs, que nos prédécesseurs avaient considéré le sujet de ce hadith-là, ils ont considéré que celui qui s'est mis dans les affaires de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas le bien pour lui. Chaque personne qui est raisonnable, elle doit essayer de se débarrasser de cette curiosité. Elle s'est mise dans les affaires des autres. Si vous êtes concerné par certaines choses, ça, vous avez la raison. d'intervenir et de participer, même s'il s'agit de quelque chose qui ne vous concerne pas, il faut toujours vous éloigner. Si vous voyez, par exemple, il y a des frères qui se croisent même sur le chemin, ils commencent à lui poser la question, même personnelle, quel est votre salaire, quelle est votre relation avec votre femme, vos relations avec les enfants, tout cela, il n'y a rien qui justifie tout cela, mais justement pour apaiser la curiosité qu'il a, de la curiosité chez lui. Tandis qu'il doit s'occuper de ses propres problèmes. Est-ce que vous croyez que ces gens-là qui posent ces questions-là n'ont pas de problème? Ils ont beaucoup de problèmes et ils veulent quand même, par curiosité, savoir ce que les autres font. Le musulman est concerné surtout par les choses qui concernent sa religion, tandis qu'il y a des choses qui ne le concernent pas, on ne doit pas en parler. Et celui qui le fait, c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui ne pose pas la question sur la tradition prophétique, et il fait les choses à l'encontre de ce que le prophète alayhi salam avait dit. C'est-à-dire, celui qui pose ces questions, c'est quelqu'un qui ne veut même pas, qui ne veut pas même s'occuper de soi-même, mais il s'occupe des autres. Toi, le musulman, tu dois être concerné par les choses qui rendent ta foi utile, qui augmentent le degré de ta foi. Et c'est pour cela qu'il faut compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu sois concerné par les choses qui te concernent. Il faut apprendre les choses concernant la foi, les attributs d'Allah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu dois faire, tu dois perfectionner tes connaissances. C'est pour cela, il faut commencer par la prière, alayhi salatu wassalam. Il faut tâcher de faire la prière à l'instar du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il a dit, faites la prière comme je le faisais. Et c'est pour cela, tu dois être soucieux de t'acquitter de la prière comme il faut, et tout en prenant le prophète, alayhi salatu wassalam, comme exemple. Dans ces jours-là, vous voyez les gens qui se préparent pour aller au pèlerinage. Ils s'intéressent à des choses qui ne concernent pas le hajj, le pèlerinage. Par exemple, on s'intéresse avec qui est-ce que je vais là-bas, quel est la meilleure compagnie pour aller au pèlerinage. Bien sûr, c'est son droit, mais il y a les choses qui sont plus importantes que tout cela. Comment faire le pèlerinage? Comment s'acquitter de cette obligation divine pour laquelle nous allons parcourir de milliers de kilomètres? Comment faire le hajj? Comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il a dit, celui qui fait le pèlerinage sans insulter ou sans faire mal aux autres, elle retourne de pèlerinage comme s'il était un nouveau-né. Et c'est pour cela qu'on doit savoir comment le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est acquitté de cette obligation divine. Et nous avons les moyens d'apprendre, surtout de nos jours, il y a l'apprentissage. Il faut d'abord acheter des livres. Si tu n'as pas l'argent, tu peux demander la question à beaucoup de personnes qui enseignent la manière comment faire le hajj. Parmi aussi les moyens pour savoir comment s'acquitter de cette obligation divine, ce que nous avons sur l'internet, on peut ouvrir, il n'y a aucun argument contre le fait qu'on a beaucoup de possibilités pour apprendre la manière de faire le pèlerinage. Et que tu saches, mon frère, que ceux qui nous avaient, et de nos prédécesseurs, ils ont considéré le fait de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'autre, c'est le moyen pour arriver aux vertus. Luqman, le sage, il était posé la question. Alors il était interrogé par les gens, comment vous avez, quel chemin vous avez emprunté pour avoir ces caractéristiques d'un homme et croyant, car il était très connu parmi les gens, il était sage, il avait l'esprit très vif, il connaissait, il faisait tout avec honnêteté et avec fermeté. La sagesse et l'esprit vif, c'est-à-dire surtout de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Si tu t'intéresses à toi-même, dans ta vie privée, ça te suffit pour toi-même avant que tu t'intéresses aux autres. Surtout, tu ne vas pas essayer de chercher les lacunes chez les autres. Il faut commencer par ses propres lacunes si tu veux réformer ou te réformer toi-même. Demandez à Allah de vous absoudre. Innahu huwa al-ghafur al-rahim, celui le tout pardonneur, le tout miséricordieux.
Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
Je veux pas que l'on comprenne ce hadith-là à leur guise, car il y a certains qui comprennent de ce hadith-là, que l'on ne doit jamais s'intéresser aux affaires des autres. S'il voit que l'un de ses frères fait des mauvaises choses, il ne sait pas de lui donner un conseil. Et ça, c'est exactement le contraire de ce que le prophète alayhi salatu wa salam vous l'a dit. Le prophète alayhi salatu wa salam avait sans doute parmi ou celui qui avait ordonné le bien et interdit le mal. Et pourtant, c'est celui qui avait prononcé ces paroles-là. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de contradiction entre ce hadith-là et le fait de s'intéresser aux affaires des autres. Et c'est pour cela qu'on doit revenir à l'interprétation des législateurs qui nous avaient donné les règles qu'ils avaient soustraites à la tradition prophétique.
Les musulmans ne divergent pas, même si elles sont rares. Le fait que le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, c'est le fait qu'il les a guidés vers cette religion, qu'il les a guidés vers l'islam. Et ce bienfait, bien sûr, est inestimable. Il ne peut avoir de prix. Et aucun bienfait ne peut l'égaler. Ceci, car celui qui tient à cette religion et s'y tient, gagnera par cela le bonheur de la vie d'ici-bas, le bonheur de la vie future. Car cette religion, chers frères et chères sœurs, c'est une voie sur laquelle le musulman marche dans cette vie d'ici-bas et qui le guide vers tout le bien. Et c'est aussi, cette religion est aussi une chose par laquelle le musulman espère, bi'idnillah, pouvoir sauver son âme du châtiment éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagner le fait de rentrer dans un paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les gens pieux. Pour cela, tout être humain doué de raison, tout musulman doué de raison, se doit de préserver ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, le préserver de tout ce qui pourrait l'altérer et tout ce qui pourrait le dégrader. Pour cela, on voit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a décrit en disant « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que son prophète est touché par les choses, par les difficultés que nous rencontrons et que ceci pèse lourd sur lui et que malgré cela, il fait beaucoup d'efforts dans le fait de nous être bénéfiques dans la vie d'ici-bas et dans la vie future. Ceci en nous guidant vers le bien et en nous interdisant le mal. On voit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés vers une chose que malheureusement beaucoup d'entre nous délaissent, qui est ce hadith dans lequel il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Min husni islam il mar, tarkuhu ma la ya'ni » qui veut dire que celui qui veut préserver sa religion se doit de délaisser les choses qui ne le regardent pas, les choses qui n'ont rien à voir avec lui. Et ceci, bien sûr, c'est ce que l'on comprend de ce hadith, mais on peut comprendre aussi son contraire, qui est le fait de dire que le musulman se doit de faire beaucoup d'efforts pour qu'il puisse atteindre ce qui lui est bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans la vie future. Et la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on mentionne et lorsque l'on entend ce hadith, eh bien ce sont bien sûr les choses qui sont en rapport avec la langue, car on voit que beaucoup d'entre nous transgressent ce hadith par leur langue, parce que tu vois un enfant qui rencontre son frère dans la rue et qui lui pose des questions sur des choses très privées, des choses de sa vie, qu'il ne regarde pas, combien il gagne par mois, qu'est-ce qu'il fait chez lui, quelle est sa relation avec son épouse, avec ses enfants. Toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec lui, elles ne le regardent pas. Et il ne fait pas ça dans un but religieux ou dans un but d'aider la personne, mais il fait cela pour éteindre le feu de la curiosité que le shaitan a allumé dans sa poitrine. Et combien parmi nous s'occupent de choses qu'ils ne les regardent pas, alors qu'ils délaissent des choses qu'ils regardent d'une façon primordiale. Et si on pouvait mentionner un exemple à propos de cela, on pourrait parler par exemple des gens à notre époque qui se préparent pour partir au Hajj. On voit que beaucoup de personnes se préparent, alhamdoulilah, pour partir pour le Hajj. Et on voit qu'ils donnent beaucoup d'importance aux choses mondaines. Combien va-t-il payer? Combien va-t-il amener d'argent avec lui? Avec quelle agence va-t-il partir? Etc, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont bonnes, ce sont des choses qui font partie de ses droits. Mais ce ne sont pas les choses primordiales pour lesquelles il doit s'occuper ou avec lesquelles il doit s'occuper. Car la première chose qu'une personne partant pour faire le Hajj doit s'occuper, eh bien c'est le fait d'apprendre comment il doit s'acquitter de cette obligation qui peut-être ou qu'il ne fera peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Il doit savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est acquitté de cette obligation, s'est acquitté de ce pilier de l'islam. Pour pouvoir obtenir la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promise à ceux qui faisaient ce hajj et ce pèlerinage dans la meilleure des manières, à savoir qu'il voit tous ses péchés effacés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc celui qui veut véritablement appliquer ce hadith, c'est-à-dire s'occuper de ce qu'il regarde en ce qui concerne le hajj, eh bien la chose primordiale pour laquelle il doit donner de l'importance, c'est le fait de savoir comment il doit s'acquitter de cette obligation. Et on peut parler de ça très longtemps, on peut donner beaucoup d'exemples. Mais la première chose aussi que le musulman se doit de savoir, c'est que la chose primordiale qui le regarde et qui le concerne, c'est ce qui est en relation avec sa religion, ce qui est en relation avec sa croyance, ce qu'il croit à propos de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, de son unicité, subhanahu wa ta'ala, et ceci, pareillement, pour les six piliers de la foi. Ça, c'est la première chose que tu dois apprendre, c'est la première chose dont tu dois t'occuper, et tu dois te laisser tout ce qui ne te regarde pas. Puis sache aussi mon frère que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, comme Al-Hassan al-Basri, ont considéré le fait qu'une personne s'occupe de ce qui ne le regarde pas comme un délaissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette personne-là. Donc essaye de te débarrasser, et moi aussi le premier, de ce mauvais attribut qui est le fait de s'occuper de ce qui ne regarde pas, de ce qui ne nous regarde pas. Et sache aussi que ça c'est un bienfait pour toi dans cette vie d'ici-bas. Combien tu vas être apaisé lorsque tu vas t'occuper de tes problèmes personnels, lorsque tu vas t'occuper de tes défauts personnels pour pouvoir les rectifier et délaisser les défauts des autres. Puis certaines personnes peuvent comprendre ce hadith d'une mauvaise façon ou l'utiliser d'une mauvaise manière. À savoir, ils pensent que ce hadith veut dire qu'ils ne doivent s'occuper en aucun cas de ce qui concerne leurs frères. Qu'ils doivent délaisser toutes les choses qui concernent une autre personne qu'eux-mêmes. Et ça, bien sûr, c'est faux. Car on peut voir que dans l'islam, on a ce que l'on appelle l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On a aussi ce que l'on appelle an-nasiha, le fait de conseiller ton frère. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font partie de la religion. Et on voit aussi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier à les appliquer, et malgré cela, il nous a ordonné de délaisser ceux qui ne nous regardaient pas. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Et ce qui détermine les choses qui te regardent et les choses qui ne te regardent pas, eh bien ce sont bien sûr les textes du Coran et les textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux savoir les choses à propos desquelles tu dois donner de l'importance, eh bien reviens au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma atina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt.